Hi, this is Elvis Presley. I suppose you know I've got a lot of cars. When I was driving a truck, every time a big shiny car drove by, it started me sort of daydreaming. And the next day, well, a thing caught fire and burned up on the road.
With one hand, she steers. The other manipulates the gear shifter. One foot operates the clutch, the other feeds the gas, and there you are. Just set the selector at drive, then step on the accelerator, and you're off. All shifting is automatic.
I sure appreciate you listening to my RCA records. I'd like to thank all the disc jockeys for playing. Bye-bye.
Elvis receives no money whatsoever for his performance here tonight.
You're listening to Pastoral Mechanic.
Salut les amis, c'est Steph, votre révérend du lundi soir, à la fois sur les 90.8 de Campus Grenoble et sur la Freies Radio Wüstewelle en Allemagne. Votre émission, c'est Pastoral Mécanique. Elle pétarade sur les routes poussiéreuses de la country, du blues et du rock'n'roll. Et si la radio est évidemment un médium sonore et que cette émission est conçue autour de la musique, eh bien ce soir, nous vous entraînons dans un monde beaucoup plus visuel, un monde où le visuel et le sonore vont se croiser. Ce soir, la musique populaire croise le 9e art, l'art populaire de la BD. Émission spéciale donc autour d'une BD sortie le 10 septembre intitulée « Rockabilly, lorsque la musique folk évolue en musique rock ». Pour vous faire découvrir cette œuvre, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Dubois, dessinateur et co-auteur de Rockabilly avec le scénariste Rodolphe, une BD qui a donc été éditée aux éditions Daniel Maguen. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
C'est un plaisir de t'accueillir et puis que tu co-présentes avec moi cette émission de ce soir, tout simplement.
Merci, c'est un plaisir aussi.
Et alors, on va pas, bien sûr, nous n'allons pas divulguer la trame de cette histoire. Hein. L'idée ce soir, avec toi, Christophe, c'est de vous faire découvrir l'univers de cette fiction et de vous donner l'envie de lire Rockabilly. Cette fiction démarre sur l'arrivée d'une femme. Amorçons donc l'émission avec un boogie-woogie country girl. C'est ce morceau. Et c'est ainsi que nous entamons 7 heures sur les routes poussiéreuses, vous allez voir, du Kentucky.
Well, I'm in love with you, dungaree, red jacket shirt, if you please, my boogie woogie, boogie woogie, boogie woogie country girl. Do you know what I mean, my boogie woogie country girl? Well, it's Saturday night, I just got paid. Worrying about my money, I'm not gonna save. My boogie, 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 boogie country girl. You know what I mean, my boogie, boogie country girl.
Girl, I said a boogie woogie boogie woogie country girl, yeah, a boogie woogie boogie woogie country girl. I said a boogie woogie boogie woogie country girl. Do you know what I mean? My boogie woogie country girl, yeah.
Thank you.
Auntie girl, I tell a boogie woogie boogie woogie. Auntie girl, I tell a boogie woogie boogie woogie. Auntie girl, I tell a boogie woogie boogie woogie. Auntie girl, do you know what I mean? My boogie woogie country girl.
Eh bien, Christophe, amorcer l'émission comme ça avec une Boogie Woogie Country Girl, c'est un peu la même manière dont tu démarres cette BD, n'est-ce pas ?
Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que la scène d'ouverture de la bande dessinée, ça, c'est une petite gare perdue dans les forêts du Kentucky où une jeune fille arrive, descend du train. Et c'est comme ça que l'histoire commence. Ouais.
J'ai été chercher ma belle-sœur à la gare. C'est comme ça, par cette réplique, que l'histoire commence. Et cette réplique, c'est un vers de la chanson. Et bien sûr, en français, puisque tu le sais, Christophe, Elvis aurait chanté en français si les Français n'avaient pas revendu la Louisiane. Alors, Christophe, tu es quand même un vétéran de la BD. La BD Rockabilly, bien évidemment, n'est pas ta première œuvre. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots ton parcours, si c'est possible, bien évidemment, puisque dans ton passé, outre la BD musicale actuelle de Rockabilly, il y a eu aussi de la science-fiction et tu n'es pas français ni belge pourtant comme dessinateur de BD, mais tu es bien suisse.
Exactement, oui, tout à fait. J'ai commencé, je pense, il y a une vingtaine d'années à peu près, et puis j'avais commencé avec une espèce du chronique qui se passait en Russie. Ensuite, je suis parti sur quelque chose qui se passait dans les mers du Sud, une histoire pendant la Première Guerre mondiale avec des bateaux à voile, et puis après j'ai changé complètement de décor avec la science-fiction, effectivement. C'est là que j'ai rencontré Rodolphe, donc le scénariste qui a écrit Rockabilly. Et puis on a fait une relativement longue série de science-fiction qui s'appelait Terre, qui a été suivie d'une deuxième saison qui s'appelait Terre, mais avec deux RE. Et puis on s'entend bien avec Rodolphe, d'ailleurs on continue de travailler ensemble maintenant. Et ça nous arrive de temps en temps, pour se détendre, de faire un peu de musique ensemble. Et puis c'est là qu'on échange sur les morceaux et tout. On s'est dit, ah, mais ce serait vraiment intéressant d'en faire un bouquin, quoi. Donc c'est comme ça qu'est née Rockabilly, la BD.
Et Rodolphe, qui lui, par son passé de scénariste, avait aussi écrit une autre BD autour du rock'n'roll, c'était Gene. Donc le biopic, si l'on peut dire, en format BD de Gene Vincent, qui est un artiste que l'on adore dans cette émission. Et ce qui est intéressant, Christophe, c'est tu évoquais l'amorce de ton propos par une uchronie. Et on retrouve en fait un petit peu, alors on va en parler tout au long de cette émission, de l'aspect uchronie de cette histoire, parce que il y a ce mélange de personnages fictifs avec des personnages réels qui donne encore plus d'authenticité à cette BD. Donc celui qui a été chercher sa belle-sœur à la gare, il s'agit de Hank Wayne qui part chercher à la gare cette belle-sœur dans tous les sens du terme, si l'on peut dire, Marie Barbara, qui est surnommée Barbie, mais une Barbie aux cheveux noirs. Alors peut-être pour accentuer l'ambiance quelque part de roman noir de cette histoire. Et puis on a la famille derrière, toute la famille Wayne avec le frère Bram, donc le mari de Barbie. Eddie qui est, on peut le qualifier de justiciable. Il y a Zach également, le plus petit frère. Evie, la petite sœur. Le père également, qui a un rôle prépondérant, ce rôle de chef de famille. Et on évoque beaucoup la mère qui a disparu également. Et toute cette famille vit dans une bourgade paumée du Kentucky, exploite une casse auto. Et bien évidemment, distille le bourbon familial, comme toute bonne tradition dans le Kentucky. Et il y a même une réplique assez explicite, justement, où on voit un officier des autorités locales qui fait une visite à la famille, où on le voit penser, dans le coin, ils sont tous un peu bizarres, mais ceux-là ont le pompon. Alors Christophe, qui vous a inspiré à Rodolphe et à toi ces personnages ?
Disons que... Bon, Bien sûr, notre idée c'était d'en faire un personnage plausible, donc Hank Wayne, là, le personnage central. Après, pour moi, j'ai pas une aspiration directe d'une quelconque personnalité de l'époque. Par contre, ce que tu viens de dire là, effectivement, ce qui était intéressant pour moi, c'est que c'est une famille, quoi. Donc là, on parle d'image. Au niveau de l'image, c'était intéressant pour moi de qu'on comprenne que c'est une fratrie, donc il y a des traits communs. Les caractères sont très différents, mais il faut quand même qu'on reconnaisse que ce soit des frères. Donc voilà, c'est plutôt autour de ça que j'ai travaillé pour définir l'image de ces personnages. Après, c'est sûr, ben voilà, ils sont coiffés comme on se coiffait dans les années 50. Hank Wayne, j'ai un peu cherché on sent que lui, il est pas comme les autres, il a envie de faire de la musique, il a envie de partir de cet endroit. Donc il est déjà peut-être plus inspiré, plus touché par la mode du moment. Donc il a vraiment le look du rocker des années 50, quoi. Un mélange entre ça, et puis quand même c'est un gars de la campagne, donc il a aussi des fois, enfin il est habillé un mix entre le jeans et puis les habits plus stylés, enfin voilà, c'était un peu ça le travail visuel sur ce personnage.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le personnage de Hank Wayne, comme tu le disais, lui veut sortir de ce carcan familial, on peut le dire, hein, pesant, voire à la limite pervers, mais ça on laissera les lecteurs le découvrir. Et puis à l'inverse, Marie Barbara, qui est arrivée dans cette bourgade du Kentucky parce qu'elle voulait s'évader de chez elle, en fait, d'où elle venait. Donc on les voit faire le chemin inverse, leur chemin qui se croise, hein. Et par rapport à ça, alors outre ces personnages qui sont quand même les personnages principaux, tous les membres de cette même famille Wayne, on retrouve deux objets qui, eux aussi, je dirais, sont des personnages importants du livre. Il y a le poste de radio. Alors, on le voit assez peu, mais il joue un rôle essentiel, puisqu'on le sait, à l'époque, dans les années 50, c'était le médium principal pour pouvoir écouter de la musique, parce que tout le monde ne disposait pas de jukebox chez soi, et encore moins de platine ou d'électrophone. Il y a ce poste de radio, c'est ce que j'ai relevé hein, dans l'ouvrage, et aussi le fameux pick-up Chevrolet rouge.
Tout à fait. Alors ouais, ça c'est bon. C'est vrai que, en tout cas, ouais, c'est presque des personnages à part entière. En tout cas, je les ai dessinés autant de fois que les personnages principaux. Et j'étais autant triste de les quitter à la fin que mes personnages, notamment le pick-up Chevrolet.
Le fameux pick-up rouge. Ouais.
Voilà, exactement, qui est vraiment un incontournable, un peu, enfin qui situe bien l'époque. Le poste de radio, c'est vrai, je trouve aussi intéressant parce que j'aime bien dans un bouquin comme ça, avec vraiment ancré dans quelque chose de réel, de me documenter. Et puis j'ai découvert tout ce système ils avaient des éoliennes qui chargeaient des batteries, parce qu'il n'y avait pas encore dans les endroits vraiment perdus, pas trop l'électricité.
Exactement.
Donc c'est ça qui est assez marrant, c'est que cette radio qui traballe un peu partout, elle n'a pas de fil parce que y a une batterie à l'intérieur. Donc moi, ça me permettait aussi de jouer avec, on verra dans le bouquin, à différents endroits. Ouais, exactement, c'est le lien aussi avec toutes les choses dont Hank Wayne rêve, quoi. Les choses lointaines de sa petite ferme perdue.
Eh bien, Christophe, pour illustrer ces deux objets, en fait, qui contribuent à l'évasion de Hank Wayne, aussi bien le pick-up que le poste de radio qui l'aide à s'évader, du moins de manière plus rêveuse, je te propose d'illustrer ça par un morceau, eh bien, de circonstances. J'ai réussi à dénicher ça par un groupe obscur des années 50 qui s'appelait The Crew. Le morceau s'intitule Red Chevrolet. Donc la Chevrolet rouge, on l'a. On a le son de la Chevrolet rouge, en tout cas la chanson qui lui est dédiée.
Bought a car today, many months to pay. No money down, best deal in town. people look, say hey. Red Chevrolet, Red Chevrolet, get out of my way. Push down on the gas, move out and pass. Can't stop, can't stay. Red Chevrolet, got you by my side. In my power glide, gonna move on out. Gonna dance and shout. Gotta make the scene in my red machine. Red Chevrolet, get out of my way. Push down on the gas, move out and pass. Can't stop, can't stay. Red Chevrolet, ooh-hoo.
On est sur les 426.8 de Campus Chronop.
Got in the rural route, got a bug on out. When the dance is through, gonna park with you. Lights out, top down, let's mess around. Red Chevrolet, get out of my way. Gotta head for home, gotta get on going. When we kiss goodnight, gonna hold you tight. Gotta leave you there, take me home, Bel Air. Red Chevrolet, get out of my way. Push down on the gas, get out on the path.
The Crew avec Red Chevrolet et bah Christophe, on aurait pu tout à fait imaginer Hank Wayne le chanter ce morceau.
Absolument, oui, tout à fait. Alors c'est vrai que on en a un peu parlé avec Rodolphe, quel genre de musique aurait fait Hank Wayne. Puis on était dans un contexte assez. On le voit dans les paroles des chansons qu'il invente là, tout le courant du livre, il est assez réaliste à décrire son environnement. Donc effectivement, il aurait pu chanter Red Chevrolet.
Alors, une curiosité, Christophe, Hank Wayne, alors bon, on l'a dit, il y a la famille Wayne avec tous les membres. Pourquoi ce patronyme de Hank Wayne ? Est-ce qu'il y a une raison ou c'est purement du hasard ? Est-ce qu'il y a, vous avez eu une influence quelconque pour choisir ce patronyme ? Comment vous vous êtes mis d'accord ?
Alors, ça disons, c'est Rodolphe qui avait proposé. L'idée est clairement de choisir un espèce de nom plausible. Il y a eu des Wayne, il y a eu des Hank, donc ça renforçait cette idée de que c'était un personnage qui aurait pu exister. D'ailleurs, on s'est un peu fait piéger, enfin je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais là je suis en train de faire toute une tournée de dédicaces, je compte plus le nombre de gens qui m'ont dit ah mais moi j'ai cru que c'était un type qui avait vraiment existé quoi. Il y a même un journaliste qui était persuadé puis nous a dit mais c'est seulement quand j'ai vu la playlist à la fin de l'album où il n'y avait aucune chanson d'Hank Wayne, j'ai commencé d'avoir des doutes et que j'ai été contrôlé sur internet et effectivement il a constaté que c'était un personnage fictif. Donc voilà, en tout cas on a trop bien réussi notre coup, mais beaucoup de gens pensent qu'il est réel quoi, alors que non il est totalement.
Je crois que dans un monde où on remet en cause la vérité ou la réalité, c'est intéressant de voir justement que vous avez créé un personnage qui est devenu vivant au travers de votre histoire, dans tous les cas. Et alors c'est vrai que Hank, ça pourrait évoquer les patronymes de Hank Williams, bien évidemment, Hank Snow, qui étaient probablement les deux plus gros vendeurs de musique country au début des années 50. Hank Snow, qui était lui-même une idole pour le King Elvis Presley. Et d'ailleurs, on va l'entendre un peu plus tard. Mais pour alors rester déjà au début de l'histoire, donc dans cette ambiance du Kentucky, rappelons-le, on le voit, on a tout cet environnement assez boisé, très coloré finalement, dans la ville de Hazard. Et les lieux urbains que l'on voit dans cette histoire sont assez réduits, puisque finalement il y a le palais de justice et l'hôpital psychiatrique. Donc c'est très révélateur de l'histoire, je pense. Et les autres lieux, peut-être où on les voit plus souvent, qui sont des lieux uniquement ruraux, en fait, bah, c'est plutôt la ferme ou la casse de la famille Wayne, la casse automobile. On aperçoit à un moment donné une grange où se déroule une fête, et puis il y a aussi un motel vers la fin du livre. Donc des environnements assez minimalistes, finalement, mais qui sont importants, je dirais, dans toute bonne histoire qui veut une ambiance à la fois un peu noire, plus ou moins road trip de temps en temps également. Et pourquoi Hazard ? Donc Hazard avec un Z et pas deux Z comme dans ZZ Top, parce qu'il y a le comté de Hazard qui n'existe pas et qui est le comté de Hazard des cousins Duke dans la série télé Sheriff Fais-moi peur, The Dukes of Hazard. Mais là, c'est Hazard avec un seul Z. Alors, est-ce que c'est une ville réelle ou fictive ? Est-ce qu'elle est fictive comme le personnage de Hank Wayne, ou est-ce qu'elle est réelle comme le personnage de Hank Wayne ?
Alors elle est réelle, elle est complètement réelle, donc c'est vraiment une ville qui existe, mais c'est vrai qu'avec un nom comme ça, c'était trop tentant, c'était assez parfait. Donc oui, elle existe, après moi j'ai vraiment trouvé énormément de documentation, c'est un endroit assez perdu, mais c'est une ville, je sais pas, à l'époque, qui était quand même assez importante. Il y avait, j'ai plus les chiffres exacts de la population, mais j'ai trouvé des livres ont été écrits sur cette ville par les gens du coin. C'était vraiment une petite ville typique des États-Unis, avec sa rue centrale couverte d'enseignes lumineuses, des rues pleines de voitures. Alors c'est sûr, quand on va sur Google Earth ou comme ça, ça ressemble plus beaucoup aux photos des années 50.
Bien évidemment.
Pardon ?
Bien évidemment.
Oui, voilà, exactement. Oui. C'est des endroits un peu sinistrés, quoi. C'était vraiment passionnant. J'ai trouvé plein de documentation, comme je disais, sur le tribunal, le poste de police. Il y avait aussi un moment, il y a une salle de concert qui existe toujours d'ailleurs. C'est une région qui existe, une ville qui existe. La casse automobile et la ferme des Wayne, elle n'existe pas. Ça fait partie des choses
avant. Ok, donc on n'ira pas en pèlerinage à la case des Wayne. Et si vous voulez trouver d'ailleurs la ville de Hazard, Kentucky, bah vous pouvez tout simplement la cartographier et vous verrez qu'elle se trouve dans l'extrême sud-est du Kentucky. Donc on est vraiment dans les Appalaches et si on peut dire paumé dans les Appalaches. Et écoute, pour illustrer un peu cette ambiance rurale, très country, très rustique, je voudrais te passer un morceau, Christophe, de Carl Perkins. Alors lui ne venait pas du Kentucky mais du Tennessee, mais l'ambiance était la même. Et Carl Perkins avait très bien documenté cette ambiance du samedi soir, mais pas du samedi soir, avec les sockettes blanches et les jupes virevoltantes des filles avec de la danse sautillante, mais plutôt les samedis soirs assez durs, comme on peut le voir dans la BD également, où c'est plutôt de la castagne que de la surprise party. Ce morceau s'appelle donc Dixie Fried, et c'est un morceau qui explique l'ambiance, on va dire, entre 2 ou 3 heures du mat et l'aube, lorsque les flics doivent débarquer pour embarquer tout ce beau monde. Et tout ça se passe bien évidemment en décalage contrôlé sur A90.8 de Campus Grenoble. C'est Pastoral Mécanique, votre émission qui pétarade. Ce soir, une émission 100% rockabilly, 100% rockabilly, aussi bien autour de la musique du style rockabilly que de la BD que nous mettons en vedette ce soir dans l'émission.
Sans toi, pastoral mécanique. He reached in his pocket and he flashed a quart and hollered, "Rave on, children, I'm with you. Rave on, cats," he cried. "It's almost dawn and the cops are gone. Let's all get Dixie fried." Now Dan got happy and he started raving. He jerked out his razor, but he wasn't shaving. And all the cats knew to jump and hop, but he was born and raised in a butcher shop. He hollered, "Rave on, children, I'm with ya. Rave on, cats," he cried. "It's almost dawn and the cops are gone. Let's all get Dixie fried." Started to shout, they all ran in to see what it was about. And I heard him holler when they led him away. He turned his head and this is what he had to say. Hollered, "Rave on, children, I'm with you. Rave on, cats," he cried. "It's almost dawn and the cops are gone. Let's all get Dixie fried." Get right. He let us all know he wasn't scared of the law. And through the black crossbar he tossed a note to his dick. Said, "It ain't my fault, hon, that I'm in here." But hollered, "Rave on, children, I'm with you. Rave on, cats," he cried. "It's almost dawn and the cops ain't gone. And I've been Dixie fried."
Ambiance avec le Dixie Fried de Carl Perkins, ça nous étions donc au tout milieu des années 50, dans les années 55-56, et Carl Perkins qui relatait l'ambiance des honky-tonks dans lesquels il jouait avec ses frangins. Ça c'est aussi, c'était une autre famille, les Perkins, qui elle a réellement existé avec tous les frangins qui faisaient de la musique dans ce groupe. Et ce morceau qui relate donc les ambiances de fin de soirée, de nuit profonde, avant que eh bien, les autorités ne débarquent pour remettre tout le monde dans ce droit chemin, sans compter que bien évidemment l'agneau et le whisky de contrebande coulent à flot dans ce genre d'ambiance. Et parfois ces excès eh bien, mènent à des drames, et dans la BD justement il y a toute une histoire qui se trame, si l'on peut dire, autour d'une tragédie familiale. Et puis en parallèle de la tragédie familiale, il y a aussi un crime que l'on a peut-être du mal à élucider. Ça fait partie de la tension de cette histoire, parce que bien évidemment, si cette BD est autour de la musique, l'idée c'est quand même de créer un ressort dramatique et de donner de l'épaisseur à tous ces personnages dont les femmes sont des vedettes, parfois malgré elles, parfois évoquées mais pas vues, ou alors on les voit mais pas telles qu'on voudrait les voir. Et ça fait donc partie de la structure de cette magnifique histoire. Et justement, ce drame, est-ce que, Christophe, quelle a été justement la motivation pour pouvoir partir peut-être plutôt sur un drame que sur une histoire plus légère?
Je crois que la période, l'endroit, prêtait plus à ça qu'à une histoire légère, quoi. Je crois aussi que c'était important pour nous de, quand on a caractérisé notre personnage, de se dire que, d'ailleurs à un moment donné, il a interviewé une radio, et puis le journaliste lui dit, vos chansons, on ne parle pas des mêmes choses que les autres, qui eux ont plutôt tendance à aborder des sujets plus légers, parce que c'est sa vie, quoi. Il a une vie jusque-là avec des drames, et ça nous semblait poser les choses avec de solidité, de profondeur, de vraiment de creuser un peu ces personnages, comment ils s'en sortent dans cette situation quand même assez, assez tordue et dramatique. Et voilà, c'était un peu ça la raison.
Et dans ce drame donc familial, et on l'a dit, très rural, et rural jusqu'au bout, puisque, alors même si l'histoire elle-même est assez dramatique, il y a quand même quelques scènes qu'on peut qualifier d'humoristiques, puisque on l'a dit, rural jusqu'au bout, puisqu'il y a la fameuse cabane au fond du jardin, la cabane des anses, si l'on peut dire. Et là, on vous assure que ce ne sont pas des toilettes sèches, surtout pas à l'époque. Et donc, ça ajoute de l'authenticité aussi également, puisque dans les campagnes, ça se passait ainsi. Donc voilà, il n'y avait pas de chasse d'eau, ça on peut le dire. Et au-delà de cette ambiance rurale, la perception qu'on peut en avoir au travers du graphisme, il y a déjà la précision des dessins, qui est vraiment une précision qu'on peut estimer de cinématographique, comme une caméra, puisque les personnages, les traits sont très réalistes et très profonds. Et on a, malgré la noirceur de l'histoire, on a quand même des couleurs qui sont très marquées, qui me rappellent un peu le Technicolor qu'on pouvait voir dans les films de l'époque. Donc j'ai l'impression qu'à travers ce graphisme, Christophe, t'as peut-être voulu comme ça donner cette dimension cinématographique de l'époque, avec une succession. Il y a de plans larges, des plans beaucoup plus serrés, parfois même uniquement sur les yeux, un peu à la manière des western spaghetti. Et puis les nuits, surtout elles-mêmes, qui ne sont pas noires mais qui sont bleues, comme les fameuses nuits de la lune bleue du Kentucky que pouvait chanter Bill Monroe ou Elvis Presley. Ouais. Est-ce que c'est ton approche comme ça graphique où on peut percevoir une influence du cinéma des années 50?
Oui, complètement. Alors j'ai vraiment, en commençant l'album, j'ai réuni toute une documentation et j'ai extrait les couleurs, quoi. Donc après, vraiment, juste des nuances de couleurs. Parce que c'est vrai que ce soit dans les véhicules, les habits, etc., on a vraiment des tons années 50, tous ces pastels incroyables qui sont à des couleurs très, très vives. Donc ça, j'ai un peu mis ça de côté pour avoir ma palette un peu de l'image. Et puis après, en fait, l'histoire se passe sur une saison, si on veut bien, elle arrive... Je dirais c'est le début des vacances et puis l'été et puis
c'est fin, ça ouais, on a l'impression fin, c'est la fin du printemps jusqu'à voilà. L'automne, l'hiver en fait même.
Exactement, ouais. C'était vraiment l'idée d'avoir toutes les saisons. Et puis donc là, ça c'est pour le décor, donc on passe de vert très tendre au début à la fin de la première partie de l'histoire, si on veut bien, c'est l'automne, et puis là on est dans des jaunes, des rouges, etc., quoi. Donc oui, et l'influence du cinéma, c'est vrai que j'ai joué sur des cadrages assez classiques de cette époque. J'ai eu la nuit américaine aussi, effectivement, des nuits très claires, un peu cet effet qu'on avait de mettre un filtre bleu sur une scène tournée de jour, en fait. Donc,
exactement, oui, comme on faisait dans les films muets du début du XXe siècle.
Voilà, ouais, c'est ce genre de... Ouais, j'ai vraiment, comme j'étais passionné par le sujet, je me suis documenté beaucoup, je l'ai réexploité à plein de niveaux, c'est dans des compositions de certaines images qui sont inspirées de tableaux contemporains américains. Donc il y a vraiment, c'est un jeu en fait, et il y a même, je trouve que c'est toutes ces choses qui sont peut-être pas mises trop en avant, mais que moi je mets, qui donne l'ambiance globale, parce que c'est sûr que si on est très documenté, on peut vite être tenté d'étaler toute sa science, j'ai vu ça, je connais ça, puis après ça devient un livre didactique, ce qui n'est pas du tout l'idée, parce que là on est vraiment, comme tu le disais, dans une histoire, un drame, un mystère, enfin, etc.
Et l'idée, c'est vraiment de créer une ambiance, de laquelle on peut s'imprégner, comme tu dis, de pas faire une énumération. Et ce qu'on voit aussi, Christophe, c'est alors au-delà des couleurs en elles-mêmes, des scènes, du choix des couleurs, hein, qui est magnifique de mon point de vue. Il y a aussi les contrastes entre les jeux de lumière qui rappellent un peu le cinéma expressionniste allemand, et on retrouve ce genre d'esthétique et qui souligne bien d'ailleurs le côté dramatique de l'histoire.
Tout à fait. Alors moi j'aime beaucoup utiliser les ombres, parce que les ombres, c'est quelque chose d'immatériel si on veut bien, mais dans une illustration en 2D on les gère bien, elles prennent tout d'un coup une masse et une importance comme des objets. Donc ça permet de diriger le regard du lecteur là où on veut qu'il aille, ça permet de dramatiser, ça permet, c'est vraiment quelque chose que je trouve passionnant, et aussi de donner le moment de la journée, les embrasses du début et de la fin de la journée, enfin, etc. Donc oui, il y a un gros travail sur cet aspect-là.
Et puis dans ce que j'ai pu noter aussi dans les dans l'aspect esthétique et visuel, il y a une scène d'église donc où la référence gothique est évidente, et il y a notamment la référence à un tableau. Alors moi, qui m'avait sauté aux yeux et que tu m'as confirmé, c'était le fameux tableau qui s'intitule, je crois, American Gothic. C'est
exactement,
ça,
hein. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais.
On voit les deux personnages, le couple de paysans devant une église de campagne tout en bois, mais vraiment très resserré avec ses voûtes bien gothiques, et on retrouve justement dans une de ces pages cette fameuse église à laquelle tu as donné trois dimensions, on peut le dire.
Tout à fait. C'est Graham Wood, le peintre, et puis ça fait partie de ces tableaux iconiques de l'Amérique du XXe siècle. Et puis, ça a été une source d'inspiration. Donc, je trouvais intéressant de l'évoquer, en fait, comme ça, à quelques endroits, à travers cette fenêtre totalement gothique.
Oui, on a effectivement cette fenêtre gothique également dans la chambre de la maison des Wayne, qu'on voit sous plusieurs angles, et qu'on voit apparaître finalement dans les scènes les plus dramatiques aussi de cette histoire.
Tout à fait, ouais.
Et alors, c'est vrai que ces évocations gothiques dans le livre sont très intéressantes, parce que je trouve également qu'elles soulignent l'obsession religieuse chez les sudistes, et qui imprègne aussi toute la musique, hein, dont on parle, le rockabilly aussi bien que le blues et le country. On a cette obsession religieuse, ces histoires de Dieu et du diable, que l'on doit se battre contre soi-même et contre ce côté diabolique, hein. Il y en a un qui le connaît bien, c'est Jerry Lee, dont on va reparler tout à l'heure. Et c'est cet aspect gothique, cette obsession religieuse qui ajoute encore au côté dramatique et onirique de l'histoire. Je voudrais l'illustrer au travers d'un morceau de Jimmy Wages, un obscur artiste son, d'autant plus obscur que les morceaux qu'il avait enregistrés à l'époque en 56-57 n'avaient jamais été commercialisés, n'avaient jamais été rendus publics. Les bandes sont restées dans les studios son chez Sam Phillips à Memphis. Et Jimmy Wages, Bob Dylan lui-même, le grand Bob Dylan, l'a qualifié de chanteur de rockabilly gothique, puisque les sujets qu'il abordait, eh bien, finalement, sont assez similaires aux sujets qu'aborde Hank Wayne, le personnage de Hank Wayne dans la BD Rockabilly, donc des sujets très noirs. Et Bob Dylan a même qualifié la musique de Jimmy Wages de gospel rockabilly, c'est-à-dire un rockabilly qui est certes très, très frénétique, une musique très rythmée, mais avec des sujets très noirs. Et celui-ci, le titre est particulier, Take Me From This Garden of Evil, sors-moi de ce jardin du mal, où c'est un appel au secours, à l'aide, que Jimmy Wages lance, on ne sait pas trop à qui, à sa maman ou à sa petite amie, mais je trouve que c'est un morceau qui illustre vraiment extrêmement bien l'ambiance du côté de Hazard, Kentucky, dans la famille Wayne, autour de ces voûtes gothiques. Vous écoutez toujours les 90.8 de Campus Grenoble et la Freies Radio Wüstewelle. C'est Pastoral Mécanique. Ce soir, une émission 100% rockabilly. Rockabilly, aussi bien la musique que la BD que nous mettons en vedette ce soir avec notre invité Christophe Dubois.
What a friendly face in a friendly place is what I like to see. Yeah, a friendly face in a friendly place is what I like to see. Well, if I
I don't hurry, get away from here. This little girl's gonna set my pace. Well, now take me from this garden of evil, deliver me over yonder. Yeah, take me from this garden of evil, deliver me over yonder. Well, I don't have long to hang around here, I don't have long to ponder. I know what I'll do if I ever get away from here. So I bet you, Nick, I know what I'll do if I ever get away from here. Well, if I have to swim the ocean wide, that's the way I drown my fears. Well, now take me from this garden of evil, deliver me over yonder. Or take me from this garden of evil, deliver me over yonder.
Vous écoutez Pastora,
I don't have long to ponder.
Take me from this garden of evil, Jimmy Wages. Comme quoi, eh bien, on peut se servir de la musique du diable pour exorciser ce diable de soi-même, comme un côté cathartique de cette musique. Et on l'a dit, Hank Wayne, c'est le personnage principal. On le rappelle, un personnage de pure fiction, mais c'est tellement crédible, et oui, que certains, même des journalistes, croient que Hank Wayne a réellement existé, puisqu'on le voit sur les étiquettes des disques Sun. Et puis surtout parce que dans l'histoire, on l'a dit tout à l'heure, eh bien on y trouve des personnages qui ont réellement existé. Et parmi les premiers que l'on voit dans la chronologie de l'histoire, eh bien il y a cette scène de concert à Hazard, donc probablement dans la salle de concert qui existe encore, je crois, Christophe.
Oui, tout à fait, Memorial Gymnasium.
Voilà, le Memorial, je me souviens du nom, Memorial Gymnasium, où, eh bien, sur la scène du mémorial, où Hank Wayne eh bien, se rend avec Barbie, on peut y voir la Miss du Rockabilly, Wanda Jackson, et sur scène, eh bien, succède à Wanda Jackson, on va dire, le clou de la soirée, probablement, c'est Gene Vincent, et puis d'autant plus crédible, puisqu'on voit les Blue Caps de Gene Vincent, donc son groupe, avec Wanda Jackson et ses musiciens également, les guitares qui sont très crédibles, on peut le dire, puisqu'on voit Cliff Gallup avec ce qui ressemble à une Gretsch, qu'il jouait, effectivement. Et puis une télécaster dans les mains du guitariste de Wanda Jackson, c'était probablement le cas déjà dès l'époque, puisqu'elle enregistrait chez Capitol Records. Et bien, Christophe, pour illustrer ça, pour illustrer ces vignettes de BD, parce qu'on imagine très bien que vous, chers amis, et bien vous allez courir acheter cette BD Rockabilly qui est disponible dans toutes les librairies de France et de Navarre et de Suisse et de Belgique, bref, tous les pays francophones. Et ben on vous propose, pour illustrer ces quelques vignettes, alors c'est sur même plusieurs pages, de ce concert de Hazard, probablement quelque part en 1956. Et bien tout d'abord avec sur scène Wanda Jackson avec Fujiyama Mama, et ensuite avec le Catman Gene Vincent lui-même, ce Woman Love, qui est la chanson qu'il chante sur la scène de Hazard. Tout de suite, eh bien, nous reproduisons ce concert de la scène de la BD Rockabilly.
Have I been to Nagasaki? anything, baby, I can do to you. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. I drink a quart of sake, smoke dynamite, I chase it with the baccy, and then shoot out the light. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Well, you can say I'm crazy, so deaf and dumb, but I can cause destruction just like the atom bomb. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop.
Hey, 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 woman, love. Hey, 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 woman, love. Hey, 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 woman, love. Hey, 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 well, I went to my doctor not so long ago. I walking in the circle, I'm on the know. He looked at me and said, good Lord above, son, you need a vaccination of a woman. Well, I'm looking for a room, one crack mind. I'm fucking and the kissing and the switching all the time. I've been here kissing to the moon above. I sure am needing me some woman love.
That's right, once!
For a loving gal that needs a lot of care, don't mind about the finger, don't the girl on her hair. The doctor really scared me when he said, good Lord above us, son, you sure am needing you some woman. Oh, well, I'm tired of walking, so I'm tired of moaning low. I pull my baby with me everywhere we go. I want my loving baby to call me turtle. I sure am needing you some woman love.
Let's rock in!
Well, I'm tired of walking circles, tired of moaning low. I'm a baby with me, everywhere I go. I want my loving baby to call me turtle dove. I sure am needing me some woman love, woman love. Hey, 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 woman love. Hey, 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 woman love. Hey, 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 woman love.
Le Woman Love de Gene Vincent et de ses Blue Caps. Et ça, ça vous donne donc une idée de ce que pouvait être l'ambiance au Memorial Gymnasium dans cette bourgade de Hazard, Kentucky. Alors vous pouvez peut-être vous amuser à trouver les dates, si effectivement ce soir-là, où il y a eu un soir où Wanda Jackson a joué avec Gene Vincent dans le Memorial Gymnasium de Hazard, Kentucky. C'est, on vous laisse relever ce défi.
Hein? Tout à fait.
Et alors,
Christophe, donc il y a donc ce concert fait partie de la trame de l'histoire, on va pas la dévoiler, et Hank Wayne, bah, lui-même va également se mettre sur scène et il va profiter de la fête du Labor Day. Donc le Labor Day, c'est plutôt donc c'est plutôt au printemps, enfin fin de printemps on va dire. Et l'ambiance de cette fête, comme une réplique l'indique, c'est chacun amène une tourte ou un gâteau. Et de l'agneau, je dirais même peut-être surtout de l'agneau. Et là, Hank Wayne chante ce I'm Moving On, cette chanson de Hank Snow, donc peut-être celui-là même qui aurait pu vous inspirer justement à donner ce patronyme de Hank Wayne. Et c'est pour ça que je te propose d'écouter le I'm Moving On de Hank Snow, puisque Hank Wayne ne l'a pas enregistré, je pense, et, mais qui donne une idée de l'ambiance qu'il pouvait créer justement dans cette grange du Labor Day, où les gens se gavent de tourte et de gnôles. C'est parti sur I'm Moving On de Hank Snow. C'est de la country, mais de la country hillbilly boogie, avec une guitare acoustique à la rythmique très prépondérante, et qui peut, je pense, illustrer parfaitement les vignettes de ces scènes de la grange où Hank Wayne chante.
Reasons on rock and roll music and why I preach against it, and I believe with all of my heart that it is a contributing factor to our juvenile delinquency of today. I 100% believe it. Why I believe that is because I know how it feels when you sing it. I know what it does to you. And I know the evil feeling that you feel when you sing it.
Wheel a rolling down the track means your true loving daddy ain't coming back, 'cause I'm moving on, I'll soon be gone. You are flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland, we're coming to you, and we're moving on. Oh, hear my song. You had the laugh on me, so I've set you free, and I'm moving on. Won't you please listen to me, 'cause I got a pretty mama in Tennessee. Keep moving me on, keep rolling on. So shovel the coal, let this rattle roll, and keep moving me on. Mr. Engineer, take that throttle in hand, this rattle's the fastest in the southern land. Keep moving me on, keep rolling on. You're gonna ease my mind and put me there on time, and keep rolling on. I've told you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen, no pain and no mind. Now I'm moving on, I'm rolling on. You've broken your vow and it's all over now, so I'm moving on. You switched your engine, now I ain't got time for a trifling woman on my main line, 'cause I'm moving on. You done your daddy wrong. I warned you twice, now you can settle the price, 'cause I'm moving on. But someday, baby, when you've had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep moving on, you stayed away too long. I'm through with you, too bad you're blue, keep moving on.
I'm Moving On du grand Hank Snow, qui était une des idoles du King Elvis, qui lui-même d'ailleurs avait repris ce morceau en 1969 lors des sessions dans les American Studios de Memphis, lors du grand comeback du King Elvis après ses années d'errance à Hollywood. Et justement, on peut évoquer cette fin des années 60, quelques années plus tard, puisqu'on voit cette rupture temporelle à un moment donné dans la BD, Christophe, et d'ailleurs qui est marquée, je je l'ai noté, par le fait qu'on est passé du poste à Galen au Transistor. On a quelques gros plans sur le Transistor dans cette ambiance un peu plus formica, un peu plus couleur pastel et plus urbanisée que la ferme des Wayne. Mais ça, on ne le divulguera pas. Ça, c'est quand même une jolie volonté aussi graphique de le faire. Et c'est à partir aussi de ce moment où Hank Wayne évoque, on va dire, sa carrière, puisqu'il va l'évoquer à un moment donné, et où là, la réalité se remélange à la fiction, puisqu'on y voit notamment Hank évoquer ses diverses rencontres dans diverses ambiances avec des rockers qui ont existé et qu'on peut voir. Et ce qui m'a fait assez rigoler, et je pense que c'était évident vu la réputation du personnage, c'est qu'on voit à un moment Hank Wayne en train de se bagarrer avec Jerry Lee Lewis, parce que c'est vrai que tout le monde a eu la réputation, tous les artistes qui ont rencontré Jerry Lee, ça s'est, de manière générale, toujours très mal passé.
Oui, tout à fait, oui, ça c'est vrai que c'était un peu l'histoire était racontée, si on veut bien, il y avait cet aparté à la fin, et c'était un peu, on s'est fait plaisir, quoi, on le faisant rencontrer quelques-uns de ses collègues. Et puis cette scène-là, oui, en plus là, bon, je vais parler de l'aspect visuel, mais lui, on a un Wayne qui est plutôt un personnage habillé tout en noir, les cheveux bruns, et puis cette bagarre avec ces mèches blondes qui volent,
la flamboyance,
voilà, exactement, c'était vraiment un truc très 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 chouette.
Il y a un beau contraste, oui.
Ouais. Et puis je trouvais intéressant aussi, après on a Eddie Cochrane, et puis après il y a cette scène plus dramatique où il aurait dû participer à cette tournée
Buddy Holly.
Terminée, voilà, avec
oui, Buddy Holly qu'on peut qualifier d'acte manqué dans le
exactement,
dans l'histoire. Et puis il y a le dernier personnage avec lequel nous allons conclure cette émission, Christophe.
Oui.
Et alors, oui, vas-y, je te laisse évoquer ce personnage.
Disons, alors je sais pas. Bon, c'est un plus, donc, mais c'est quand même la fin de l'histoire pour Hank Wayne. Et c'est peut-être le moment où il le dit lui-même. Il ne sait plus s'il rêve, s'il est dans la réalité ou s'il rêve. En fait, il concrétise un rêve de gosse, comme il le dit. Et puis, c'est cette rencontre incroyable avec le King.
Voilà, avec le Christ du rock'n'roll.
Exactement, oui.
Eh bien, Christophe, nous allons conclure là-dessus. Et je voudrais... on va conclure avec une chanson du King lui-même. Et qui illustre parfaitement, qui fait partie de la playlist de la fin du livre, le fameux Blue Moon. Et je voudrais conclure avec quand même une réplique très importante, je trouve, dans le livre, si tu le permets. Cette réplique, donc l'interview de Hank Wayne, qui lui donc évoque son passé. Hazard, un bled paumé au bord des Appalaches, l'endroit est dur, les gens aussi, on picole, on se bagarre, des gars se font tuer. Là-bas, on ne se fait pas de cadeaux. Si on veut s'en tirer, il faut se battre. Ouais, quand t'en peux plus, tu prends un flingue ou une guitare. J'ai choisi la guitare. Merci Christophe. Je crois que c'est comme ça qu'on peut conclure de la plus belle manière cette émission. Et on vous encourage donc à courir dans votre librairie, acheter cette BD Rockabilly, donc de Rodolphe et de Christophe Dubois, avec qui nous avons eu le plaisir de présenter Pastoral Mécanique ce soir. Merci Christophe.
Merci, c'était un très bon moment.
Un très bon moment que vous pouvez retrouver en podcast sur les www.pastoralmécanique.com, pastoral sans e, mécanique QUE. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même heure, même fréquence, même punition. D'ici là, conduisez prudemment, ne buvez pas trop, embrassez votre femme ou votre mari et surtout écoutez beaucoup de musique qui pétarade. Qu'Elvis vous bénisse, que Johnny Cash point ne vous lâche et que Poison Ivy longtemps vous prête vie. À la semaine prochaine.
Blue moon, you saw me standing alone.
You're listening to Pastor Mickey on the Stephen Show.
All right, Elvis has left the building. Without.